Le retour de Radio X.
C'est de la snoot. La snoot.
Avec DH, Jordan et Mel Trudel.
Radio X.
Mesdames, messieurs, voici Stéphane Monette.
L'unique, Monsieur Monette. Merci Stéphane d'être venu jeudi faire un maudit bon show ici en ondes. Les gars m'en ont parlé. Et d'être venu souper avec les deux donateurs de 10 000 $, 10 000 piastres chacun.
C'est le fun, hein?
Pour le sapin de sapin de Noël et fondation du CHU. Oui, oui, c'était le fun. C'était coloré.
Ah oui. Ça me fait plaisir. C'était correct. On a eu bien du fun. Les gens étaient intéressants. Puis on a posé une belle veillée. Là.
Ben oui, c'était parce qu'on a parlé. Il y avait un des deux couples qui avait ils ont une fermette. Je sais que ça jasé beaucoup d'animal. Et on avait aussi une pompière et on avait un auditeur, un assidu de Radio X, là, Jean-Yves, je salue.
Exact.
Alors, je salue Luc et Jean-Yves. Merci à ces gens-là qui ont donné. T'es très généreux, là. Vraiment.
Fait qu'après ça, ben, au printemps, on a une sortie de planifier ensemble, puis on va avoir du fun. Puis, non, c'était cool, c'était vraiment cool.
Merci. Hey, t'es parti de chez vous, t'es venu, t'as fait le show, le souper, puis je sais que t'avais peut-être une belle chasse à venir. Est-ce que
c'est réalisé? Ah, tabarouette! Notre cœur, c'est parce qu'on vous aime vraiment. Il va dire ça de même, là. Ben oui, hey, c'est drôle parce que. J'ai récolté mon chevreuil, puis il reste à Yann, mon fils a ramassé son chevreuil. Ça fait, on va aller voir la gang à X, on va aller faire ce qu'on en fait, puis on va revenir à... Puis pendant qu'on descendait, nos caméras de surveillance, c'était pouf! Ah, le chevreuil qu'on cherche, il est arrivé. Fait qu'on a fait... Oh, on va aller avec les gars, on va y aller. Mais Yann, il n'a pas récolté, en fait. Fait que c'était vraiment une bonne chose. Mon gars, il n'est pas trop dépressif.
Vous êtes passé à côté. Il y avait quand même
oui.
C'était un gros buck, là.
Oui, c'était un beau 8 points, un beau buck mature, là. Fait que c'était correct. Hey, Dan, il est pas en plein, là.
Bon, excellent. Bon, là, il y a un phénomène, écoute, ça faisait même la une, je pense, de certains journaux, là, dans la région, en hausse. Les dindons sauvages qui s'amusent à faire des ravages dans les cultures des producteurs québécois puis de beaucerons, dont ceux qui produisent, ceux qui ont des cultures de fraises. C'est devenu un fléau, là. Puis je sais que ça a parti, ça, à un moment donné. C'est au bord des lignes, là, le Maine, tout ça. Puis là, il grimpe de plus en plus vers le nord. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus, des dindons sauvages?
Ben,
c'est même
fait,
rendu en Outaouais en passant, là.
Oui, bien, il arrive de deux bords. Parce que là, il migre vers le nord parce qu'aux États-Unis, il y en a, puis le changement climatique font qu'ils montent. Puis nous autres, on les a introduits. La Fédération des chasseurs et pêcheurs du Québec les ont introduits il y a une quinzaine d'années. Fait que là, ben il y a des belles populations de dindons sauvages. Fait que là, ben oui, mais c'est très, très simple à régler, là, ce problème-là. Là. Donnez-nous la permission d'aller chasser, puis on va contrôler les populations. Le problème, bien souvent, c'est que les fermiers ne veulent pas donner accès aux chasseurs d'aller... Tu sais, je vais renverser ça vers nos voisins, les Américains. Où est-ce que les chasseurs sont vraiment considérés comme des gestionnaires de la faune, puis ils sont hyper contents d'y voir, puis ils veulent leur coopération, puis tu sais, il y a même des petites madames, nous autres, qui viennent nous porter des petits sandwichs, des petits cafés, parce qu'on les aide à contrôler les populations de chevreuils puis de dindons. Tandis qu'ici, ils voudraient que ce soit le gouvernement qui... On l'a, le moyen de gestion, on l'a, mais il faudrait juste que tout le monde se parle, puis là, on serait capable de faire de quoi. Quand c'est problématique, quand c'est vraiment problématique, il y a un permis qui se donne, c'est un permis seigle, que le ministère, les biologistes vont évaluer le secteur. Puis à partir de ce secteur-là, ils vont dire, OK, vous pouvez en abattre X montant pour pas nuire au troupeau. Puis là, ben encore là, c'est la job de certains chasseurs qui vont être sélectionnés, dire, bon, ben vous avez tant de dindons à débarquer sur ce tant de kilomètres carrés-là, puis faites votre job. Puis là, on va faire notre job, puis on va ramasser des dindons. Puis après, ben c'est simple, on ramasse la viande, puis on va la consommer pendant l'hiver. Puis c'est simple à gérer. Mais naturellement, c'est pas comme ça.
Tu es en train de me dire que c'est compliqué parce que c'est géré par le gouvernement.
Oui, c'est exactement ça. Ça sera simple. C'est tout le temps simple, nous autres. Mais tu sais, toute la bureaucratie... Tu sais, avoir un permis seg, là, ta barouette, c'est pas mal moins de troubles passer aux douanes. Tu sais, là, ils sautent, là, c'est complexe. C'est rendu over tout, mais ça serait facile. Puis aussi, il y a les dépenses. Le gouvernement, les gestionnaires veulent pas dépenser d'argent pour ça. Parce que là, ça prend un biologiste. On n'en a pas de biologiste. Ils coupent partout. On n'a pas assez d'argent de la faune pour contrôler ça non plus. Fait que, tu sais, c'est là, là. Puis là, ben, ça encourage le braconnage, les mauvaises choses. Fait que, tu sais, mais ça serait simple, Dan, là, je te le dis. Là. Moi, là, quand j'ai trop de dindons chez nous, je fais une demande de permis sec, ils viennent évaluer, ils vont me dire, OK, tu peux en débarquer 15. On s'organise une gang de chasseurs. Puis souvent, tu passes les lois aussi, parce que la loi dit qu'on a le droit seulement de récolter les mâles. Fait que là, ben, ils vont passer par le rue, ils vont dire, tu as le droit de récolter tant de femelles, tant de mâles, faites votre job. Quand ils sont récoltés, tu fais un rapport. Mais tu sais, nous autres, les rapports, c'est bon, il faut quasiment t'envoyer chaque plume du dindon pour être sûr que tu...
Reste en analyse pendant 2 ans.
Oui, mais là, comment tu fais? Là, toi, tu sais, là, je sais, ma question est carrément innocente, mais tu parles les mâles, dindons, et comment tu sais si c'est un mâle ou une femelle? Là?
Ah, c'est c'est simple, parce que dans le cas des dindons, les mâles, les femelles, les mâles, ils ont une tête beaucoup plus rouge, mais surtout, ils ont une grande barbe qui sort de leur poitrine. Fait que quand tu le vois arriver, tu as une barbe de, mettons, entre 5 et 12 pouces qui sort de la poitrine. Fait que c'est très, très facile à savoir si c'est un mâle ou une femelle.
Là, on a-tu une idée du nombre de dindons sauvages qui vivent au Québec? Puis est-ce que ça vit à l'année, ça, ici? Parce qu'il y en a, j'en ai vu encore en
oui,
fin de semaine.
Oui. Là, le dindon s'est très, très bien acclimaté au Québec. L'habitat, tu sais, il ne faut pas oublier qu'il était là avant. Là. Il a été exterminé par les colons quand que les colons ont colonisé le Québec. Il a été exterminé parce que c'est une viande qui est succulente. Puis l'hiver, il est super facile à capturer, il est super facile à chasser. Fait que ça n'a pas été long que quand ils ont envoyé les colons là, avec une poche de farine puis un mousquet au Québec, puis on dit enlève les roches dans le champ, on va faire des champs avec ça. Ben quand l'hiver est arrivé, ils ont compris bien vite que le dindon sauvage, surtout qu'il est bon à manger, qu'on pouvait le récolter facilement. Fait qu'il a été complètement exterminé du Québec. Puis c'est pour ça qu'ils l'avaient réintégré, puis que là, on a une gestion. Mais oui, c'est un animal, c'est un oiseau qui était ici avant, là.
Tu es en train de me dire que finalement, les coyotes, ils peuvent la faire, cette job-là?
Danny, on parle pas de coyotes! Il y en a assez de trouble avec là, cette semaine. Là. C'est pas ma semaine avec les coyotes. Là.
Ah non, okay, pourquoi? Ouais. Pourquoi ça pique ma
gueule? J'en ai. Tu sais, l'hiver, le gel tarde à arriver. Puis là, ben, ils réussissent à creuser en dessous des clôtures puis rentrer dans des clôtures. Puis c'est facile là, pour eux autres parce que mes chevreuils sont dans un parc. Fait que hier, là, les caméras de surveillance sonnaient. On est deux qui ont rentré. Fait que on est là-dessus, on essaie de les attraper. Puis my God, qui sont wise, là. Fait que c'est ça. C'est Maître Coyote est très, très, très bien implanté au Québec. Puis il sait comment faire une bonne job.
Je veux juste finaliser avec les dindons sauvages, là. Oui, là. Oui. Mais c'est quoi les. Toi, ce que tu recommanderais, là? Si le gouvernement dit Stéphane Monnette, on veut ton opinion.
Ah, ben simplement, tu fais venir un biologiste. Tu fais un inventaire du troupeau, combien il y a de trous de dindons dans cette région-là. Puis après ça, tu dis, ben OK, on va dire qu'il y en a 100. OK? Ben sur les 100, dans cette capacité de milieu-là, on va en garder une 20. Ben, il faut en tuer 80, c'est tout. Puis c'est facile, là. Hey, c'est un site, c'est un pet, là, faire ça, là. T'en as fait de rien. Puis là, ben, tu récoltes les 80.
T'as pas moins de plus que 100 parce que, entre autres, dans les champs, c'est un producteur en Outaouais, il dit que lui, il en vient 100 par jour dans son champ.
Oui, oui. Mais là, tu sais, ils ont plus de problème à cet incite, la neige va pogner. Là. Fait que le dindon, il devrait pas avoir de troupe. C'est surtout au printemps, mais que la chasse rouvre, bien, qu'ils commencent à donner accès aux chasseurs, qu'ils laissent faire une saison aux chasseurs. Puis après ça, ils vont voir comment que les chasseurs vont en avoir récolté dans ce coin-là. Tu sais, ils pourraient même changer la loi puis la donner à la femelle. Fait que là, bien, ça sera encore plus facile de récolter du dindon. Puis là, ben, mettons, une fois que ça c'est fait, tu fais une réévaluation du troupeau en été. Là, ben, quand l'automne arrive, on dit OK, ben, mettons, s'ils en ont tué 20%, il faut qu'il y ait un autre 20% qui tombe. Fait qu'on fait une autre chasse automnale. Puis si on voit qu'on arrive à l'automne, c'est pas fait, ben là, tu rentres un permis sec là-dedans, tu rentres dans la gang, puis là, tu t'enlèves ce qu'il y a de trop, puis ça finit là. Tu sais, moi, j'ai vu aux États-Unis, là, à un moment donné, là, je chassais un endroit, puis là, le fermier, il avait environ 150 chevreuils de trop. Fait que les biologistes, ils avaient donné 100, ils appellent ça des blocs tags, ils avaient donné 150 blocs tags. Puis, il pouvait faire ce qu'il voulait. Fait que lui, quand moi, je suis arrivé, il y en a déjà 30 de récoltés. Puis lui, ben, il me vendait ça 10$ le permis pour que moi, je puisse ramasser 10$ du chevreuil. Puis j'avais ramassé le nombre de chevreuils que je voulais en ramasser. Puis lui, ben, à la fin de la saison, sa centaine de chevreuils est enlevée de sa terre. Ses champs étaient corrects. Puis tout était revenu plus normal. Puis c'était reparti. Fait que, mais on n'est pas habitué à ça, nous autres, au Québec. Là. Puis c'est long. C'est que c'est long à avoir des réponses, à parler à quelqu'un, à avoir de quoi. Nos pauvres agents de la faune, ils veulent bien, là, mais ça prend du temps.
Puis les dindons, là, qui sont habitués de dealer avec les humains, eux autres, ils ont tendance à être plus agressifs? Parce que je connais du monde, moi, qui ont dealé avec des dindons, puis c'était plus ou moins le fun quand ils étaient en troupeau. Là. Mm-hmm. Ils ont-tu plus tendance à s'acclimater à nous autres puis se foutre de ce qu'on fait?
Bien, en fait, ils vont s'habituer à nous autres, puis c'est surtout dans le temps de la reproduction qu'ils sont plus nonos. Parce que la testostérone, bien, je sais pas si c'est de la testostérone pour les dindons, là, mais ils sont surtout beaucoup plus téméraires quand c'est le temps de l'accouplement. Puis oui, c'est vrai, il y en a qui peuvent venir vous voir, mais là, on s'entend. Là. J'ai pas personne que je connais qui s'est fait manger par un dindon.
C'est juste qu'ils vont te courir après. Là.
Il va te courir après, puis si tu y fais face, là, tu accroches le cou, puis tu y fais faire deux, trois tourniquettes, puis il va comprendre bien vite que c'est pas la bonne espèce, il faut qu'il court après, fait qu'il va s'en aller, là, tu sais. C'est juste ça. Tu sais, il y a tout le temps une perception où est-ce qu'à un moment donné, il faut. Tu sais, moi, les dindons, je les attrape en main chez nous. Ils, tu sais, quand ils arrivent dans un coin de clôture, là, c'est pas eux autres qui ont mis spring après sauterelle, on s'entend. Fait que quand ils respirent dans le coin d'une clôture, puis ils sont plus capables de s'en aller, t'arrives proche, là, ils te regardent, ils veulent te faire face, puis te dire, hey, tu me toucheras pas. Mais quand je le pogne, il comprend bien vite que c'est moi qui est. C'est moi qui est dominant, là.
Fait que
je la gagne, je le pogne, je la lance par-dessus la clôture, genre, ouais, le grand va-t'en là-bas, là, va jouer plus loin. Là,
ça pèse combien, ça, à peu près?
Entre 20. Je te dirais entre 15 et 25 livres, à peu près.
Je pensais que c'est plus lourd que ça.
Une poche de patate.
Ouais. Puis, tu sais, ça a l'air imposant à cause de la grandeur des ailes puis la grosseur de la queue, là. Mais quand tu rouvres le bec, là, ils n'ont pas des dents de 4 pouces, là. Je vous le garantis, c'est pas ça, là.
OK. Hey, je t'amène sur une autre histoire.
Ah ouais.
C'est un grizzly. En fait, on pense que c'est la mère avec ses deux bébés ou trois bébés. C'est dans l'Ouest canadien, en BC, là, en Colombie-Britannique. C'est, au début, on disait peut-être 10-12 blessés. Finalement, ça serait 3 blessés, plus un...
Ben, il y a eu 11 enfants qui ont été attaqués.
Oui.
Puis là, quand juste avant que tu m'appelles, là, j'avais vérifié, puis il y a 4 enfants. Ben, ils disent pas si c'est des enfants, mais il y a 4 personnes qui sont dans un état très grave, là. Tu sais, là, ils savent pas s'ils vont passer à travers, là. Fait que, oui, effectivement, ils ont été attaqués, là. Fait que, c'est triste. C'était très triste. Mais tu me permets-tu de donner mon idée là-dessus?
Oui, puis je veux juste dire aux auditeurs que je ne sais pas quel âge avaient les enfants, là, mais l'histoire...
C'est du 11
quatrième et cinquième année. C'est une classe, en fait. Jeune. C'est une classe que les professeurs ont amené faire du hiking dans le bois.
OK, parce qu'il y a un des jeunes là, qui était un héros, là, que lui, oui. il a confronté la mère ours pour sauver des petits jeunes. Là.
Oui, exactement. Exactement ça.
Vas-y avec ton opinion. Hey. Puis j'espère que ces gens-là...
Hey, on le vend-tu du GBS en sac? Vous savez, vas-y. C'est quoi du GBS, du gros bon sens?
Oui.
Qu'est-ce que tu penses d'aller te promener avec des enfants en pleine forêt faire du hiking sur un territoire où est-ce qu'il y a des grizzlies? Tu sais, c'est à base de la marche en forêt que les enfants, tu fais pas ça. Là, en plus, ils sont fessés sur une mer avec des petits. Fait que là, tu sais, c'est comme la maman dindon avec ses 12 petits qui fait face à face avec une maman coyote parce qu'elle décide de rentrer dans le tout pour... Tu sais, c'est complètement... C'est un gros manque de gros bon sens là, d'avoir fait ça, de décider. Puis je le sais que c'est dans le nord de l'Alberta, pas de l'Alberta, mais du BC. Je le sais que probablement qu'ils pouvaient le faire avant. Mais tu sais, personnellement, là, jamais je ferais ça. Jamais je partirais avec une gang de jeunes aller faire du hiking en backcountry, où est-ce qu'il y a de la possibilité de te frotter sur du grizzly. Moi, ça me rentre pas dans la tête. Là. T'sais, moi, t'sais, on a tous des enfants. Puis quand je montais, mettons, avec mes enfants faire de la collecte de bleuets dans le nord de Paris, là, ben on faisait du bruit, on criait fort, puis on arrivait avec... on était armés, puis les bleuets, on savait où qu'on allait, puis on faisait hyper attention. Fait que je me demande où est-ce qu'il était le gros bon sens de ces professeurs-là d'amener ces enfants-là dans cet endroit-là. Je ne sais pas, tu sais, prenez un autobus, si, allez-y par l'autre bord, allez le monter le belvédère, faites d'autres choses, mais pas prendre une marche dans un bois aussi sauvage et aussi dangereux.
J'ai envie de te dire, moi, si. Tu sais, je suis directeur de l'école. Ça se peut que je pose des questions au professeur. Là. T'es sûr que tu veux aller, toi, dans un endroit où il y a des grizzlies, des ours noirs, des cougars, puis des carcajous?
Des loups.
Des carcajous.
Voyons.
Il y a tout ça, là, dans ce place-là. Là. C'est à 700 km au nord de Vancouver.
Ben oui, vous allez me trouver drôle, mais va au zoo, va au Walmart, va visiter un musée, mais il me semble... Tu peux leur montrer la forêt, mais pas des enfants de 4e et 5e année... dans un backcountry comme ça, là, dans un endroit sauvage comme ça. Moi, ça me rend pas... Tu sais, ça, je te dis, je pense qu'on va me mettre à vendre du GBS en sac, tu sais, du gros bon sens en sac, parce qu'il y en a qui en ont besoin de ce temps-là. C'est complètement ahurissant d'avoir fait ça. Là. Genre, tu sais, la nouvelle, quand tu me l'as envoyée, j'en revenais pas, puis j'ai poussé, j'étais loin, j'ai essayé de lire, j'ai essayé de... c'est effectivement une marche. On est allé faire du hiking, puis dans les rocheuses, puis badagne avec les gens.
Puis le grizzly, on disait dans l'article, qu'il était toujours en liberté. Ils vont essayer de le trouver, le grizzly? Je veux dire, lui,
ben, c'est difficile, tu sais, entre moi et toi. Ben oui, puis tu sais, entre moi et toi, là, quand c'est... Tu sais, mettons là, que ça serait un ours qui rentrerait dans un village. Puis là, OK, il y a moyen de le découvrir, de savoir c'est lequel, de faire comment est-ce que c'est. Mais cet ours-là qui a passé, puis qui se sont fessés sur lui, puis qui a viré fou, puis qui a sauté dans les enfants, ben 8 heures après, là, il peut avoir fait 25-30 kilomètres plus loin. Tu sais, lui, il a juste défendu... Elle, en fait, c'est une femelle. Là, elle a défendu ses petits, puis ça a fini là, puis... Tu sais, elle a passé un autre appel, là, les petits sont sauvés, puis elle se casse pas la tête. Fait que, tu sais, je ne sais pas s'ils vont le retrouver. C'est sûr que si l'ours reste en entour du village, c'est un autre game. Mais dans ce cas-là, c'est eux autres qui ont rentré dedans. T'sais, ils ont rentré dans le pays des ours. Là. Fait que je pense pas qu'il va y avoir un abattage qui va se faire, puis qu'ils vont trouver le bon. Puis, tu sais, on le sait par les histoires maintenant. Souvent, ils vont en tirer un autre pour arrêter la population de capoter et dire on a tué le bon, puis c'est peut-être même pas le bon dans ce temps-là, mais ça arrête la panique de tout le monde. Là, là.
As-tu vu la vidéo? Il y en a un qui nous écrit ça, Monette. Est-ce que tu as vu le loup qui tire sur l'appât de pêche au bout d'une corde dans l'eau pour se nourrir?
Ouais. Non, on en a parlé. Okay. Ben oui, on en a parlé il n'y a pas longtemps. C'est complètement. C'est une super observation. Là. Tout le monde est. Le monde scientifique, les biologistes sont tous sur le cul de cette nouvelle-là. Là. C'est, ceux qui ne le savent pas, c'est ils ont découvert un loup qui était capable de prendre une bouée, de la tirer au bord de la plage, tirer sa corde, sortir ce qu'il y a dans la cage, puis manger ce qu'il y avait dans la cage de crabe. Là. Ah oui, c'est complètement. C'est du jamais vu, cette vidéo-là, là, vraiment.
OK, mais je sais que là, ça fait un drôle de lien, mais. Les corneilles sont extrêmement intelligentes en passant. Hein? Si tu leur montres quelque chose, ils vont le répéter. Là, ça devient comme un conditionnement, là, puis ils vont le répéter.
Oui,
ça, il y a quand même une certaine forme d'intelligence dans certains animaux.
Absolument, mais dans le cas des canidés, c'est la première fois qu'on filme de quoi qu'un canidé, dans le cas d'un loup, a été capable... Nous autres, ce qu'on appelle, c'est utiliser un outil pour se nourrir.
Okay.
Il a fallu qu'il y ait une analyse qui dise la bouée qui flotte, la corde dans le fond, il y a de la bouffe dans le fond. Fait que, tu sais, le loup, t'as-tu assis sur le top d'un buton, il a vu les gars mettre ce qui sentait bon dans la cage, de le lancer à l'eau, que ça flottait. Il a fait le lien de nager, d'aller tirer à bouée, tirer à corde, manger ce qu'il y a dedans. C'est fort. C'est vraiment fort, ça.
En tout cas, s'il est intelligent, c'est certainement pas un caquiste.
On va lui demander d'aller chercher du crabe.
Comment qu'on fait, là? Je suis pas capable de comprendre.
C'est ça. Il va mourir de faim.
Hey, merci, Stéphane.
Hey, merci, tout le monde. Bonne semaine.
Salut, bye.
Ciao.
Le retour de Radio X.
Petite pause.
OK.
On revient dans pas long.
Radio X.